Nous sommes le jeudi 21 août, il est 21h sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Bonsoir Romain.
Salut Xavier.
Est-ce que tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Mais ça va, ça va. Écoute, Romain, qui, quand il ne réalise pas cette émission, il anime sa propre émission à vos souhaits sur Twitch, sur sa chaîne Ruvon avec underscore, tous les mercredis après-midi. Et un jour, peut-être qu'il arrivera à la faire tenir dans des streams de moins de 6 heures.
C'est ça, c'est l'objectif. C'est encore jamais arrivé. Bon, on y croit.
Non, mais voilà, c'est un objectif. Moi, je trouve que c'est un bel objectif.
Quelle endurance !
Ça. Et fais les choses correctement.
Oui.
Présente tout le monde.
Bonsoir Bettina.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
Ça va, ça va.
Bettina, donc instigatrice de l'événement Indie Game Lyon qui prépare la 7e édition, qui, à n'en point douter, accueillera une foule équivalente à celle qui garnit la Gamescom cette semaine.
Bien sûr.
Au moins.
Au minimum.
Voilà, donc on part sur du 500 000 cette année.
Oui, oui, voilà, ouais, ça va rentrer dans le CCBA sans aucun problème.
Ça dépend, ça dure 2 semaines, c'est ça?
Voilà, quant à moi, c'est Xavier. Je n'ai pas de stream ni d'événement à promouvoir, mais j'ai un atout qui me permet de présenter cette émission. Mes deux co-animateurs n'ont encore pas remarqué que je ne connais rien aux jeux vidéo.
Alors, on avait des doutes. Ça fait quelques années qu'on a des doutes.
Comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game
en replay.
Et évidemment Radio Canu pour l'accès au studio. Qu'est-ce qu'il y a au sommaire cette semaine ? On va parler du Xbox Game Pass, cette offre d'abonnement de jeux vidéo poussée par Microsoft depuis 2018 et qui s'est imposée comme offre principale d'abonnement sur PC et évidemment sur les consoles Microsoft. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel a été le premier nouveau titre à être lancé sur Xbox Game Pass ?
2018 ?
Ouais.
Non.
Sea of Thieves.
Ah !
Oh !
Voilà. Et qui a lancé l'offre, qui a participé notamment au succès de l'offre sur PC, notamment.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Ok.
Nous allons expliquer notre rapport à cette offre, si on l'utilise, comment on l'utilise, si on compte poursuivre. On parlera du modèle économique du Game Pass, des conséquences que ça a pour les studios de jeux vidéo et notamment avec des réactions récentes de figures importantes du milieu. Mais d'abord, on va faire le tour des news récentes des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et dans ses alentours. Bettina, c'est à toi.
Oui, j'ai encore envie de vous parler de deux personnes aujourd'hui. Donc la première, c'est Marie Gibert. Son pseudo, c'est Gigi Lily. Elle travaille sur un nouveau jeu. Donc elle a d'abord travaillé sur... elle n'était pas seule. Sur Mura the Neighbor Builders, avec mon super accent, qui est un jeu donc, sur Discord. C'est un jeu communautaire où on construit un petit village avec d'autres personnes et qui s'installent sur un serveur Discord. On peut y collecter des petits animaux mignons aussi, par exemple. Et donc, elle travaille sur un nouveau jeu après ça, en binôme avec Ségolène, qui est la graphiste. Donc, elle est plutôt, du coup, développeuse, on va dire. Là, en ce moment, elle travaille vraiment sur le level design, entre autres. Le jeu va s'appeler, en tout cas, pour l'instant, il peut changer de nom, I Can Offer You Flowers, qui est un puzzle game. Elles ont obtenu pour ça l'aide à l'écriture du FAJV, le Fonds d'aide aux jeux vidéo du CNC.
D'accord.
Donc bravo à elles pour ça, déjà. Ce qui veut dire que si elles ont su convaincre le CNC, c'est que le jeu a probablement du potentiel. Et toutes les deux, elles publient des petites news, elles partagent des infos en fait sur leurs réseaux sociaux, elles partagent par exemple leurs recherches et leurs avancées. Sur Instagram et Blue Sky, c'est Gigi Lily Mura et Segosaurus sur Instagram et sur Blue Sky. Donc ça, c'est leur compte à toutes les deux. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez jeter un œil.
Et Gigi, qui était... t'es gentiment venu dans notre émission qu'on avait présentée en direct de la Gamescom. Pardon,
qu'on avait enregistré en direct de l'Indie Game Lyon, tout à fait, en 2023.
En 2023, oui.
C'est ça.
Oui, je crois que c'est ça.
En 2023. Mmh. Et d'ailleurs, son jeu, son builder, qui est installé chez une de nos amies, qui s'appelle Lissandra, sur son serveur Discord, et qui est super bien.
Oui, bah, du coup, nous, on l'avait testé aussi, puisqu'elle l'a exposé pour la sixième édition de Indie Game Lyon, donc cette année. Mmh. Donc, on l'avait testé aussi, comme toutes les candidatures qu'on reçoit. Et effectivement, c'est très cool. Je me suis grave prise au jeu pendant plusieurs jours. Je voulais absolument collecter tous les petits pets adorables. Donc voilà, ça c'était la première. Et donc la seconde, qui est Neige Dorée. Elle travaille sur son premier jeu en solo. D'ailleurs, auparavant, pour la petite histoire, elle était salariée chez Albion. Albion Lyon qui a fermé d'ailleurs. Mm-hmm. On aura l'occasion d'en parler, je ne suis pas sûre. Mais... et donc son premier jeu en solo s'appelle Contenir. C'est un jeu de plateforme narratif. Elle avait aussi exposé cette année à Indie Game Lyon. On se retrouve en fait directement dans le journal d'une femme trans qui n'est pas un jeu autobiographique mais qui a quand même des éléments qui sont inspirés de son vécu. Le gameplay mêle puzzle et timing avec une narration en fait qui nous est contée en même temps qu'on progresse dans les tableaux. Neige Dorée stream régulièrement son développement sur Twitch, donc Neige Dorée, ça s'écrit N-A-E-J-D-O-R-E-E, si vous voulez suivre, c'est très intéressant. Et elle a, elle aussi, obtenu l'aide à l'écriture du FAJV, donc bravo à elle pour ça également.
Oui, parce qu'on avait pu y jouer, que ce soit à l'Indie Game Lyon également, on avait vu Lissandra y jouer en dehors de l'Indie Game Lyon sur sa chaîne Twitch.
Et un peu pu échanger aussi
avec elle pendant des
streams.
Un des streams où on avait effectivement fait un petit bilan de l'Indie Game Lyon en tant que...
où elle avait gentiment aussi raboté tous les développeurs de Lyon.
Oui, absolument. Parce que voilà, stream, on parlait des jeux qu'on avait découverts effectivement. Ouais.
Elle avait été adorable.
Ouais, carrément.
Et j'espère qu'un jour on pourra parler de Contenir avec elle.
Oui, effectivement, oui.
Il y a des grandes chances, je pense. Je pense qu'elle serait ravie. Après, voilà, elle a fait donc son premier salon cette année. Le jeu était vraiment au tout début. Nous, on avait testé que le tout premier niveau. Après, la version qu'elle a fait tester pendant le salon était un petit peu plus élaborée. Il y avait plus de niveaux, mais du coup, celle-ci, je ne l'ai pas testée. Mais voilà, il faut aussi lui laisser le temps d'avancer là-dessus. Mais c'est très cool qu'elle ait eu l'aide à l'écriture. Et puis, bah, a priori, je ne voulais pas redemander confirmation, mais a priori, elle profite aussi de son chômage pour travailler. N'oublions pas le chômage, le premier investisseur des indépendants solos qui développent leur propre jeu.
Leur cotisation de qu'ils aient travaillé avant.
Pas investisseur, le mot est très mal choisi.
Mais je comprends l'idée.
Mais support financier, quoi.
Bien évidemment, voilà. Mais qui est mérité pour tous ceux qui ont cotisé pendant des années de travail avant. C'est... Quoi, me regarde pas comme ça.
Non mais oh, les discours de gauche, bon, super.
Ouais, t'entends pas plus, je sais bien, mais efforts pour rentrer dans ces locaux déjà.
Non mais très bien, donc écoutez, c'est bien de parler des petits trucs, parlons de vraies entreprises, Microsoft.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Des gens à qui on n'a rien à reprocher du tout.
Mais pas du tout, mais ils n'ont pas du tout fait arrêter leurs propres employés devant leur propre bureau parce qu'ils manifestaient contre la partie... Hein, pardon ?
Voilà. Tu dis qu'ils ont fait arrêter les employés, déjà je constate qu'ils ont encore des employés, ce qui m'étonne.
Oui, je pense que qu'ils vont faire vite le choix. Hein.
Vu qu'ils en ont viré quand même quasiment 9000 sur ces dernières mois.
C'était effectivement une info d'hier qu'ils ont effectivement, des gens qui manifestaient contre l'utilisation des outils de Microsoft, de participation à ce qui est en train de se passer à Gaza actuellement, en collaboration avec l'armée israélienne. Mmh. Des employés de Microsoft qui ne sont pas spécialement d'accord avec ça, qui ont effectivement fait une manifestation sur place, vraiment devant les locaux, qui s'est soldée par 18 arrestations. J'ai vu l'info hier sans aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, voilà.
Oui, bah écoute, si tu
une,
veux...
Une entreprise dans laquelle on n'a pas grand-chose à leur reprocher, puisqu'on n'a pas le droit de leur poser des questions à la Gamescom actuellement sur le sujet.
Non.
Ils refusent de répondre et ils coupent les interviews qui vont dans ce sens.
Bah, le mieux, si tu veux, tu peux demander à des employés d'Arkane qui, eux, sont des employés de Microsoft et dont certains qui sont syndiqués au STJV.
Les syndiqués du STJV au sein de Arkane Lyon ont effectivement, eux aussi, poussé dans le même sens en demandant à Microsoft de repenser leur collaboration actuelle avec
l'armée israélienne,
par exemple.
ce disclaimer nécessaire ayant été fait, on peut parler donc du Xbox Game Pass. Mm-hmm. Alors pourquoi on voulait en parler ? À la base, c'est parce qu'il y a eu certaines déclarations dont Romain nous parlera plutôt un peu plus tard dans l'émission sur des remises en cause et des discussions très intéressantes sur le modèle du Xbox Game Pass. Avant de parler justement de ce modèle économique et de ce que ça implique pour les studios qui sont dedans, je voulais un peu qu'on parle de notre rapport en tant que joueur au Game Pass. Déjà autour de la table, qui a le Game Pass, qui l'utilise, Romain ?
Non, jamais eu, jamais consommé, jamais.
Et pas l'intention de non plus.
Non plus.
Ok. Bettina ?
Ah bah nous on l'a à la maison. Et je m'en sers énormément.
Ok. Moi, j'ai eu la chance qu'on m'offre 3 mois de Game Pass, ce qui me permet déjà de découvrir l'offre. Et j'avais un rapport où j'ai toujours eu et toujours été entre. J'aimerais bien l'avoir parce que les jeux ont l'air fous, mais c'est pas tant les jeux ont l'air fous, mais il y a l'air d'avoir une offre qui est très intéressante. Mais mon backlog me fait honte. Donc si je rajoute encore des jeux alors que j'ai un backlog stupide sur Steam déjà, est-ce que je vais pas encore avoir plus honte à payer un truc auquel que je vais avec des jeux auxquels je pourrais même pas jouer, tu vois ?
C'est vrai que j'ai pas ce problème. Oui. Voilà. Mon backlog du coup c'est mon Game Pass, on va dire essentiellement.
D'accord. Mais du coup moi c'est un peu l'inverse. J'ai déjà tellement de jeux auxquels j'ai pas joué que ça n'a pas vraiment de sens pour moi de m'abonner à quelque chose en fait qui me rajoutera effectivement du contenu à dans lequel me plonger, même si j'en reconnais parfaitement effectivement l'intérêt en tant que joueur, en fait l'accès dès le lancement d'un bon paquet de jeux, qu'ils soient des jeux développés par Microsoft et ses studios et toutes ces tentacules.
Pour donner un chiffre précis, je lis une tétrachie.
Oui, très bien. C'est voilà. Tout à fait scientifique.
Oui, mais tout à fait exact aussi.
Ah oui, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais à côté de ça, effectivement, il y a aussi le côté que, en tout cas quand ça a commencé, le côté, c'est pas moi qui décide à quoi j'ai accès. C'est-à-dire que, surtout au début, l'offre, elle n'était pas aussi pléthorique qu'aujourd'hui. Et malgré tout, encore une fois, tous les mois, il y a toutes les 2 semaines, je crois que c'est ça, il y a des fournées, ouais. Il y a deux fois par mois, des fournées de jeux qui rentrent et des fournées de jeux qui sortent.
Oui, et
du coup, il y a un peu ce côté... souvent, on a l'info quelques jours, quelques semaines avant que tel jeu va sortir du Game Pass.
Normalement, ça va, ils préviennent assez tôt quand même, parce que je vois donc dans mon backlog, j'ai ce petit message qui dit va bientôt quitter le Game Pass, et je crois que ça reste quand même affiché quelques semaines.
Je crois que c'est au moins 2 semaines.
C'est plutôt 3 semaines, 1 mois avant.
Je crois que c'est ça.
Parce que souvent, tu as le message, vous avez 1 mois pour terminer tel jeu. Quoi.
Ouais.
Mais dans l'idée, c'est vrai que c'est pas ma façon de consommer les jeux, en fait, j'avais encore, et j'ai peut-être encore un peu bêtement cette sensation de posséder mes jeux, quoi qu'il arrive, quand je les achète sur Steam, le côté dématérialisé, on a déjà suffisamment parlé de l'absence finalement de réel contrôle sur la possession
du fait qu'on possède une licence, un droit d'utilisation et pas le jeu en lui-même, bref.
Voilà. Mais bon, ça reste un peu plus poignant, en tout cas, de mon point de vue en tant que
plus
consommateur.
C'est un
choix à ce niveau-là.
Mais peut-être quelque chose dont on parlera plus tard aussi, qui est l'achat à l'acte, où tu te dis peut-être qu'il y a plus... Enfin, il y a une partie de l'argent qui va plus forcément arriver dans les poches de l'ayant droit que lorsque tu fais... lorsque tu utilises un Game Pass, mais j'ai envie de dire c'est une impression, je dis pas que c'est le cas, je dis il y a cette impression là contrairement à une offre à la Netflix par exemple où t'as un catalogue et puis tu pioches dedans, tu vois.
D'ailleurs sans te poser autant la question dans le cas de Netflix ou de Spotify de combien récupèrent les créateurs
On parlera effectivement du modèle. On le comparera pas à Spotify parce que clairement c'est pas du tout le même.
Non, il y en a qui le font pour dénigrer le fonctionnement de l'offre, mais c'est pas la même logique. On parlait de Netflix qui produit lui-même une partie du contenu tout en accueillant, comme Microsoft, et tout en accueillant également de la production externe.
Quand est-ce que tu as commencer à utiliser le Game Pass. Est-ce que tu arrives à te souvenir de ça?
Non, j'y réfléchissais.
Il y a un côté alcoolique anonyme. Alors, combien de temps que...
Non, parce que comme on sait que ça a commencé en 2018, ouais. C'est pour savoir si, vous faisiez partie des early adopteurs ou si c'est arrivé un petit peu plus tard.
Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, pas en 2018. En fait, j'arrive pas à me souvenir parce que du coup, le Game Pass, c'est mon copain qui le paye et au final, c'est pour la maison. Quoi. Ça fait partie des, des dépenses commune entre guillemets.
Oui, comme souvent Netflix dans un foyer. Hein,
exactement.
Dans 8 foyers en même... Pardon.
Pardon. Donc je ne me rappelle pas quand est-ce qu'il a commencé, d'autant qu'en plus, d'ailleurs, moi dans mon rapport aux jeux vidéo, j'étais beaucoup plus joueuse console avant et c'est le Game Pass qui me fait devenir beaucoup plus joueuse PC. Je réfléchis, je crois que ça fait 2 ans maintenant que je joue pas à la console en fait, en vrai. Je réfléchis, sauf des jeux que j'ai déjà, mais.
Du coup, c'est pas l'Xbox Game Pass. Tu l'as pas consommé. En tout cas, ça t'a pas fait avoir une consommation d'une Xbox. Mais
non,
de PC.
Non, c'est uniquement sur PC. Ouais. Okay. Non, on n'a pas d'Xbox. On s'est arrêté à la 360. On n'en a pas acheté ensuite. Donc non, on n'a pas d'Xbox à la maison.
Ça faisait aussi partie du projet de Microsoft au tout départ, en tout cas, de pousser la console avec.
Mais ça marche pas chez nous.
Pas que chez toi.
Oui, spoiler, pas que chez toi. On va pas le voir.
C'était juste pour l'évoquer.
Mais oui, voilà. Mais effectivement, il y a un truc où il y a eu un problème, je vais dire, de communication entre sur le Xbox Game Pass, entre le Xbox Game Pass console, le Xbox Game Pass PC, mais aussi les autres offres précédentes d'abonnement qu'il existait sur Game Pass, avec les programmes Gold, les programmes bidules, les programmes machin. Ça a été un sacré bordel avant que ça se stabilise et que on puisse un peu tous comprendre ce qu'était...
Quand on parle de Game Pass, de quoi on parle?
De quoi on parle quand on parle de Game Pass, effectivement.
Tout en sachant qu'il y a toujours une différence entre ce que payent les joueurs consoles et ce que je veux payer les joueurs PC aujourd'hui.
Enfin, et le contenu de l'offre. Et sur quoi ils ont accès aussi.
Parce que voilà, mais ça c'est plus récent, que l'offre soit pas la même en fonction de ce que tu payes et de ton niveau de premium Game Pass que tu veux. Quoi.
C'est plus vrai. Récent.
Et en plus, c'est tellement pas moi qui gère l'abonnement que je savais même pas en fait. Juste, j'ouvre mon compte et je fais « Ah, trop bien, il y a des nouveautés !» Voilà, c'est tout.
La vie, c'est comme une boîte de chocolat.
Exactement, et pour moi c'est toutes les 2 semaines la surprise, genre qu'est-ce que j'ai aujourd'hui.
Après c'est vrai qu'il y a un biais par rapport à, en tout cas les gens qui sont autour de moi qui jouent n'ont pas de Xbox, et quand on parle de Game Pass c'est PC.
Ouais.
Enfin, c'est un biais, donc je dis pas que c'est le cas et que vu que c'est autour de moi c'est le cas partout, mais clairement quand j'entends parler de Game Pass, c'est plutôt le Game Pass PC, même largement majoritairement, on parle de Game Pass PC. Et qui, quand même, ouvre où il y a pas si longtemps, on disait pas, il y a tel jeu sur Game Pass, donc on verra, donc on peut essayer par le Game Pass si jamais on n'est pas sûr de vouloir mettre des sous dedans. Et que maintenant, ça devient un discours qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus assumé. De « Tiens, il y a tel jeu qui sort, si tu sais pas, tu peux l'essayer via le Game Pass, regarde, le Game Pass, c'est tant par mois. »
Moi, j'ai entendu plus souvent le côté « Tu peux l'essayer sur le Game Pass, de toute façon, c'est pas comme si ça coûtait quelque chose. »
Oui, oui, oui.
Tu vois, un peu comme le Amazon Prime, tu vois.
Oui, mais comme...
C'est déjà quelque chose que tu payes, quoi qu'il arrive, donc tu considères qu'en fait, que ça ne coûte plus rien. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, c'est ça.
Oui, c'est vrai. Je confirme. Moi, j'ai un peu ce biais-là aussi depuis qu'on l'a et depuis que je m'en sers. C'est que on paye l'abonnement et oui, je peux tester tous les jeux du Game Pass. Ça ne me coûte rien de plus. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire en plus c'est gratuit. Enfin, non, je paye l'abonnement, mais il est là. Enfin,
c'est gratuit sur Netflix.
Oui, c'est le même principe.
Le fameux, c'est gratuit, tu es sur Netflix. De toute façon, t'as Netflix. Comment ça, t'as pas Netflix? On est en 2020,
Ça marchait mieux il y a quelques années. Oui, aujourd'hui, c'est moins...
On n'a plus Netflix.
C'est vrai,
mais
à une
mais
époque...
je comprends l'idée, bien sûr.
Enfin,
bien
sûr. Typiquement pendant le...
Et c'est ce type de consommation-là.
Voilà, c'est ça.
Qui va avec, quoi.
C'est un peu l'époque de... Comment ça, t'as pas de télé? Tu vois, c'était un peu ce genre de truc-là. D'accord, ça marche. Merci à vous deux pour avoir partagé votre quotidien avec votre Game Pass.
De quoi ?
Merci pour cet instant en vérité.
Non, mais effectivement, ça reste intéressant quand tu es en dehors en fait de ça, parce que tu as effectivement ces communications autour de comment les autres qui utilisent le Game Pass de façon ponctuelle ou pas. D'ailleurs, je connais un certain nombre de gens quand même qui achètent le Game Pass pour un mois, deux mois, de temps en temps, et pas de façon continue. Parce qu'il y a un moment, il y a tel jeu qui est sorti, du coup, au lieu de mettre 50, 60, 80 balles en fonction du jeu pour y jouer, bah, ils mettent un ou deux mois de Game Pass pour y jouer, de la même façon.
Tu mets 20 balles pour acheter, par exemple, pour l'époque de Starfield.
C'est plus 30 aujourd'hui pour deux mois, mais...
À l'époque de Starfield, justement, d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais ils avaient augmenté juste avant Starfield pour cette
raison-là,
d'ailleurs.
Et c'est pour ça que certains jeux, aujourd'hui, sont un peu limités à un certain type de compte, ou en tout cas, l'accès des One commence à être un peu plus... Et donc, il y a cette... je crois que sur PC, il est toujours à 12 euros par mois.
12,99
par mois, ouais. Mais du coup, on glisse tout doucement un peu plus vers le 30 euros tous les deux mois, effectivement, ce qui a déjà beaucoup plus de sens, effectivement, que te dire je vais mettre 80 ou 70 euros dans un jeu qui vient de sortir. Je l'ai vu plus souvent, effectivement, avec, par exemple, Indiana Jones, qui est sorti l'année dernière, qui avait une durée que tu pouvais tranquillement finir en un mois, voire deux mois, en y jouant de temps en temps.
Du coup, pour rebondir là-dessus et pour un peu revenir sur ma consommation, moi, du coup, je joue beaucoup, beaucoup à des jeux indés et je profite de mon Game Pass pour enchaîner des jeux indés qui, bien souvent, sont beaucoup plus courts que des AAA. Donc, au final, même si c'est des jeux qui sont moins chers, il n'empêche qu'en cumulé, si c'est des jeux qui durent 2 heures, 4 heures, 6 heures, au final, je vais en faire plein. Et même si c'est 10 balles, 20 balles, 30 balles, c'est quand même un certain coût. Donc, ça vaut carrément le coup d'avoir un Game Pass.
Évidemment.
Au final, c'est beaucoup moins dépensant.
Bien sûr. Je sais que je sais que je suis assez client des jeux qui, je vais pas dire qu'ils sont en exclu Game Pass parce qu'en vrai il y en a pas ou quasiment pas, qui sont en tendance à sortir en Day One sur le Game Pass ou qui sont proposés par le Game Pass, ce type de jeu indé, mais souvent en fait je les récupère souvent genre 1-2 ans après via d'autres offres, que ça soit des soldes ou que ce soit par le Humble Bundle ou par d'autres choses, via l'achat à l'acte. Mais en fait, et c'est vrai que c'est des jeux qui à la sortie coûtent 30 balles et vont finalement, je vais les prendre pour quelque chose entre 5 et 10 balles chacun. Et ce qui fait que au final, ça, c'est des prix à peu près équivalents à si je l'avais pris sur le Game Pass. Et que tu me diras, oui, mais tu l'as 2 ans après. J'ai fait, oui, mais une fois de plus, tu n'as pas vu mon backlog.
aucun jugement là-dessus. Hein.
Oui, voilà. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que tu as un peu cette consommation-là. De te dire, ok, là j'ai accès au truc, alors que tu l'aurais pas acheté neuf, entre guillemets. Mm-hmm. Tu l'aurais pas acheté à sa sortie, tu l'aurais pas acheté dans les conditions normales de sa sortie. Et c'est un petit peu ce qui ressort de certaines, on va dire, analyses et études de certains comportements. Globalement, les gens qui ont le Game Pass, c'était pas forcément des gens qui allaient acheter tous les jeux indés qui sortent, tous les double A qui sortent, alors que la grande majorité sont dispo sur le Game Pass, au point que certains, effectivement, comparent un peu le Game Pass comme un CD de démo.
Oui.
Et sans le magazine rigolo qui va avec, mais des années 90, mais pour essayer des trucs.
Oui, oui, effectivement, il y avait notamment le truc, c'est que les utilisateurs de Game Pass étaient, en tout cas en termes d'analyse de comportement, pour la grande majorité, n'étaient pas des gens qui achetaient des jeux indés sur Steam auparavant.
C'est ça. Ils n'ont pas remplacé, si tu veux, cette consommation-là par le Game Pass.
C'est ça.
Ça a donné plutôt accès à d'autres jeux. Et puis, tu as la logique de, dans un certain nombre de cas, des jeux qui sont dispo sur le Game Pass pendant un temps limité, un certain nombre de mois. Ensuite, si tu veux continuer à y jouer, tu dois l'acheter.
Mmh. C'est ça.
Autre petite subtilité avec le Game Pass, c'est que tu n'as quasiment jamais accès au DLC proposé avec certains jeux.
Ça dépend.
Ça dépend, mais...
Ça dépend
lesquels, mais je pensais...
Alors déjà, pour les jeux tiers, peut-être pas.
Non.
Pour les jeux qui viennent de Studio Microsoft, oui, tu y as accès.
Mais par exemple, à un Crusader Kings, tu n'as pas accès à toute la pléthore de DLC qui va avec.
Mais pourquoi jouer à CK3 oui.
Surtout qu'il plante en ce moment, bref. <c'est... rire>
Pourquoi? En même temps, tu parles de jeux... Bref.
Tu sais pas ce qui est bon.
Évidemment, je suis une fraude, je te rappelle.
Oui, mais je te le rappelle aussi. Je te le rappelle moi aussi.
Si ça vous va bien, j'aimerais qu'on parle un peu du modèle économique proposé par le Xbox Game Pass. Ce qui apparaît justement dans nos discussions déjà, c'est qu'il est quand même avantageux pour l'utilisateur, qui va bénéficier en permanence d'une centaine de jeux. Pour un prix en dessous de 15 euros par mois actuellement, en tout cas. Mmh. Il se trouve que là, pour le Game Pass, par exemple, en fait, la manière dont ça se passe pour qu'un jeu arrive sur le Game Pass, bon, soit c'est un jeu qui est produit par un des nombreux studios de Microsoft, auquel cas, en termes de rémunération, on n'a aucune information sur comment ça se passe. Genre, aucune.
Non, bien sûr. Et puis, bah, c'est un peu la logique, en fait. C'est la logique qui a poussé Microsoft à acheter autant de studios et acheter autant de production.
Oui, d'ailleurs, souvent, par exemple, de façon intéressante, on a plus d'infos sur combien coûte un film Netflix, produit par Netflix, que sur combien coûte un jeu produit en interne chez Microsoft.
Oui, parce que...
parce qu'il y a toujours une comparaison avec Netflix, notamment au niveau du modèle économique. Et c'est intéressant de voir qu'il y a quand même beaucoup plus de transparence côté Netflix, alors qu'on pourrait croire que c'est l'inverse, surtout pour le côté production audiovisuelle, mais c'est pas le cas. Lorsqu'on parle d'éditeurs tiers, en fait, les studios et les éditeurs tiers, ils signent un contrat avec Microsoft qui va payer les ayants droit et va leur payer une certaine somme pour donner accès à leur création sur son offre d'abonnement pendant une durée établie au préalable.
Qui peut être renouvelée,
voilà.
Tout est négociable, c'était d'ailleurs une façon de l'aborder de Phil Spencer à l'époque. Il n'y a pas un deal, il y a des multitudes de deals en fonction d'eux.
Voilà, ça peut être un an, ça peut être 3 mois, ça peut être...
Ça peut être 50 000 dollars comme 50 millions de dollars.
Voilà.
Il y a effectivement des... On avait vu cette info en fait, sur LinkedIn en fait, de quelqu'un qui était chez Microsoft et qui négociait ces deals-là en fait, avec les éditeurs et avec les créateurs, qui disait j'ai négocié des trucs de 50 000 à 50 millions.
C'est ça. C'est pour des choses dont on a déjà parlé dans cette émission auparavant, c'est exactement le modèle utilisé par Epic pour ses offres de jeux gratuits sur sa plateforme. C'est-à-dire que c'est une somme négociée en échange d'un giveaway du jeu, donc d'une mise à disposition gratuite pour les joueurs pendant une semaine, voire un jour pour certaines opérations spéciales.
Grosse différence, c'est que c'est pas des jeux gratuits, parce qu'il faut s'abonner au Game Pass.
Oui. Mais je veux dire, là je parle pas pour les joueurs, je m'en fous des joueurs.
Oui, mais malgré tout, c'est pas la même, pas le même objectif. Dans un cas, tu veux garder des clients, tu veux amener des clients sur ton truc d'abonnement pour les garder ensuite. Dans l'autre cas d'Epic, ils voulaient faire venir des gens pour qu'ils deviennent des clients payants.
J'entends, mais je parle juste contrat.
Il y a un des deux qui a marché.
J'entends, mais je parle juste
contrat. Il y a une des tactiques qui a marché.
Je parle juste contrat. Après, ouais. Voilà. C'est juste les mêmes modèles de contrat. C'est tout ce que je voulais dire. En 2020, notamment, tu as Phil Spencer qui expliquait le fonctionnement du service qui mettait bien l'emphase sur l'attrait du Game Pass pour les développeurs, en tout cas, qui voulaient le vendre ainsi. Je cite, « Une des choses intéressantes à observer, c'est qu'un développeur, généralement de petite ou moyenne taille, peut commencer un jeu et dire « et nous sommes prêts à l'ajouter dans le Game Pass et dès son lancement, si vous nous donnez X dollars maintenant. » Et c'était vraiment le côté où tu pouvais, si tu négociais correctement avec Microsoft, ils pouvaient subventionner, entre guillemets, ton jeu en te disant peu importe combien tu pourras le vendre, en combien tu en vendras par d'autres canaux, si tu te débrouilles bien, tu retomberas sur tes pattes financièrement parlant. Ça, je dis, ça, c'est, c'était le discours de Phil Spencer. Voilà. Après, quand tu me dis, ça peut être de 50 000 à 50 millions. Voilà, ça dépend des jeux, ça dépend
exact,
de qui,
la
ça
durée,
dépend de
ça
quoi.
Ça dépend de pas mal de choses. Avec une toute petite subtilité quand même, être sur le Game Pass ne t'interdisait pas d'être vendu ailleurs.
Bien sûr. Voilà,
ce n'est pas la logique d'Epic. Revenir sur la logique de deal similaire.
Oui. Non, pas forcément pour le coup. Vu que, par exemple, le premier jeu Epic était Subnautica et était vendu sur Steam aussi.
Oui, mais tu avais la logique des jeux que Epic aussi payait des jeux pour être en exclusivité sur leur store.
Ouais, mais c'est pas donc ce que je parlais, je parlais des jeux gratuits.
C'était le même genre de deal qu'ils faisaient.
Je sais que tu fais une fixette sur Epic.
C'était aussi le même genre de deal.
Mais c'est une fois de plus, ça fait deux fois, c'est pas ce dont je parle. Arrête.
Oui, c'est toi qui veux comparer les deals et les deals d'Epic pour dire votre jeu il sera en exclu chez nous, c'était le même genre de deal.
Tu as raison, Romain.
Je sais.
Voilà. Pour le Game Pass, en fait, le truc, c'est que, comme je disais, tu avais Microsoft qui se posait un peu à la fois en curateur, en disant voici quels jeux viennent, mais aussi en mécène, parce que c'est vous faites un deal avec nous et en gros c'est bon, vous n'avez pas besoin de savoir si vous pouvez le vendre ailleurs, si machin, voilà. Et le truc, c'est que voilà, des nombreux jeux ont bénéficié dès lors d'une vitrine unique et d'un accès à un immense parc de joueurs. Et une mécanique somme toute bénéfique à court terme pour des studios plus confidentiels qui auraient peiné à se faire voir dans le flux incessant de nouveautés, notamment sur Steam par exemple. Mais on peut se poser la question de l'impact positif du service. Est-ce qu'un jeu proposé gratuitement via un abonnement ne va pas être boudé au niveau des ventes à l'acte sur Steam ou ailleurs, sachant qu'on a eu des cas différents, que ce soit pour Outriders d'un côté ou pour Clair Obscur de l'autre. Pour prendre deux cas qui ont fonctionné de façon...
Et puis pas du tout au même moment de l'existence du Game Pass.
Oui, oui, mais
pas au moment où le nombre de clients était le même aussi. L'utilisateur du Game Pass.
Mais c'est surtout le... Au-delà de ça, c'est Outriders n'a pas convaincu au-delà du Game Pass. Mmh. Là où Clair Obscur s'est très bien vendu en dehors du Game Pass.
Oui, oui.
C'est tout ce que, c'est ce que je disais.
Il y a une époque où le Game Pass, ils essayaient justement de faire venir le maximum de produits dessus pour proposer une offre la plus intéressante possible et justifier finalement l'abonnement. Les tout premiers temps, ils avaient une offre qui était beaucoup moins importante qu'aujourd'hui. Ils essayaient de rajouter. Ça a été dit effectivement par différents analystes du marché que les deals Game Pass étaient bien plus intéressants à une certaine époque pour les petits, pour les jeux les moins déjà connus ou qu'on savait qu'ils allaient déjà de toute façon attirer. Aujourd'hui, c'était moins le cas. Ça n'a jamais été justifié par des valeurs, par des chiffres. Il y a eu quand même un certain nombre d'articles qui revenaient sur le fait que les deals Game Pass étaient plus intéressants parce qu'ils voulaient construire l'offre. Ils voulaient construire la bibliothèque du Game Pass, ce qui est moins nécessaire aujourd'hui et ce qui a été fait en même temps du côté de Microsoft de racheter notamment Activision Blizzard. Aujourd'hui, il y a Call of Duty dans le Game Pass.
Tu veux dire
ils ont moins besoin, si tu veux, de construire une bibliothèque monstrueuse pour attirer de plus en plus de clients.
Tu veux dire qu'auparavant, Microsoft offrait plus d'argent que maintenant ?
En fonction des oui, il y avait effectivement un peu plus de disparité
ce qui renforce mon exemple par rapport à Outriders qui date de 2019 et qui pourtant n'est pas disait au bout de deux trimestres qu'ils n'avaient toujours pas reçu sous de la part de Square Enix parce que le jeu n'avait pas assez marché.
Oui.
Contrairement à Clair Obscur qui n'a toujours pas donné de chiffres, mais je pense s'en est plutôt très bien sorti.
C'est ça. On n'avait pas besoin de ça en tout cas pour fonctionner.
Bettina, est-ce que tu avais, toi, eu vent de développeurs qui avaient pu, soit leur jeu sur Game Pass, soit en fait qui avaient pu communiquer par rapport à leur collaboration avec Microsoft?
Bah, j'ai essayé d'en savoir plus. Effectivement, j'ai contacté un studio qui a vu son jeu être dans le Game Pass. Malheureusement, ils m'ont expliqué que c'est leur éditeur qui a tout géré et que eux, ils peuvent pas me dire grand chose. Donc, j'ai quand même essayé de gratter un petit peu, mais j'ai pas appris grand chose de leur part directement. Par contre, j'ai essayé de me renseigner moi de mon côté, justement comment ça se passe du côté d'un studio. Et du coup, je rebondis un peu sur ce que tu expliquais précédemment par rapport aux différents modèles de rémunération. De ce que j'ai compris, on va dire qu'il y en a deux principaux et un troisième qui existe, mais qui est très rare. C'est que tu as donc le financement de développement, c'est ce que tu disais, Xavier, c'est que dans certains cas, Microsoft va financer partiellement ou totalement la création d'un jeu en échange de son arrivée Day One dans le Game Pass. Et ça, ça concerne beaucoup d'indépendants, notamment. Et puis après, voilà, t'as aussi le paiement forfaitaire qui va être payer une somme fixe pour que le jeu intègre le Game Pass pendant une certaine période, ce qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait dire une licence temporaire, mais au moins l'éditeur ou le studio est garanti de toucher cette somme-là, peu importe le succès du jeu. Ça aussi, un revers, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et le troisième qui vraiment existe mais est très très rare, c'est la rémunération à l'usage, c'est-à-dire que les revenus sont proportionnels à l'engagement des joueurs et des joueuses, par exemple le temps de jeu, le nombre de téléchargements, etc. Ça existe, mais en tout cas c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus courant comme genre de deal. Mais comme tu le disais, Microsoft reste volontairement très opaque sur les contrats, on sait pas vraiment de quoi il en retourne précisément.
À la base, c'est ce qui, je sais que ça avait, ce qui avait été envisagé par Microsoft sur ses versions de travail, c'est-à-dire avant 2018, sur ses versions de travail, d'avoir un modèle plus à la Spotify, c'est-à-dire, sachant que pour Spotify, les revenus, c'est tu as tant d'écoutes. Mm. En gros, tu as un prix de genre 1 ou 2 dollars pour 1000 écoutes. Mm. Et là, ce serait, et c'était avec
c'est des mathématiques, ouais.
Avec d'autres métriques, vu que t'as plus de métriques par rapport aux jeux vidéo, et d'utiliser ces métriques-là pour faire de la mesure d'audience et payer les gens en conséquence. Et alors, en tout cas, des dires de Microsoft, et ce que tu as l'air de confirmer, c'est que c'est quelque chose qui est minoritaire.
Apparemment, voilà. Je peux pas en mettre ma main à couper parce que je n'en sais rien, mais. Apparemment, voilà.
Ça a pu exister, ou en tout cas, dans certains...
En tout cas, c'est pas ce que Microsoft met en avant non plus. C'est pas, a priori, ça a pas l'air d'être le genre de deal qu'ils font le plus souvent, quoi.
Et la communication de Microsoft autour de ça, c'est souvent que c'est des deals au cas par cas, toujours.
Oui, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr.
Mais du coup, quand même, ce qui a l'air de ressortir, c'est qu'il y a certains studios indépendants qui ont déclaré que sans le Game Pass, leur jeu n'aurait pas pu exister, justement par ce côté financement initial qui vient de Microsoft. J'ai trouvé quelques exemples de studios qui ont pu s'exprimer sur des réseaux sociaux. Alors, les premiers jeux, je ne les connais pas, c'est She Dreams Elsewhere, qui est un solo dev. Je ne connais pas ce jeu. Pentiment. D'Obsidian.
C'est un truc interne.
C'est un petit peu différent. Ouais, c'est un jeu Obsidian, donc c'est plutôt Microsoft qui a dit, vu qu'on a une distribution, etc., peut-être que d'habitude, dans un fonctionnement classique de studio, où il dirait, en gros, vu ce que c'est un truc en interne, a priori, il n'y a pas de public pour ça, on ne va pas financer le truc parce que ça ne sert à rien.
Bosser plutôt sur les trucs qui rapporteront de l'argent.
Voilà, et là, ils ont dit, bon, ok, vu qu'on a déjà...
Ça fera de l'offre.
Ça fera de l'offre, remplissez le catalogue. Effectivement. Je pense que c'est plus ça.
Oui, complètement, okay, ouais. Je pense aussi. Hein, c'est un peu ce qu'avait dit Josh Sawyer aussi.
Ok, je ne connaissais pas bien l'histoire. Et puis, il y a Sable de Shedworks qui eux-mêmes ont pu dire ça, que le financement de Microsoft les avait vraiment beaucoup aidés. Spirity de Cheese Master Games, qui est un que j'ai beaucoup fait, peut-être un jour j'en parlerai, qui est un Stardew Valley-like, mais dans un univers un peu japonais où on gère des bains, des onsen pour des esprits. Voilà.
D'accord.
Donc lui aussi, je dis lui, mais je crois que c'est le studio. Je sais pas qui exactement a pris. Je me rappelle plus qui exactement a pris la parole sur les réseaux sociaux, mais en tout cas voilà, ils ont déclaré ça. Et puis Gareth Damian Martin, le créateur de Citizen Sleeper, qui n'a pas parlé pour Citizen Sleeper, mais qui a parlé en général, qui a affirmé que justement le Game Pass, selon lui, a permis à de nombreux studios indés de continuer à exister et que ces montants, même s'ils sont petits, sont vraiment vitaux pour les indés, du moins en tout cas pour lancer une prod. Voilà.
J'avais aussi l'exemple de Mike Rose de No More Robots qui avait aussi déclaré ça à certaines époques aussi.
Okay.
Il y a eu de toute façon il y a eu depuis l'explosion de Steam, on va dire vers 2015 où c'était il y a eu un peu l'explosion avec les soldes, etc., tout ça, où tout s'est retrouvé sur Steam, vraiment. T'as eu toujours, et que ça a été les premières versions de l'Indiepocalypse. D'ailleurs, on en est à la quoi, 10e version de l'Indiepocalypse, à peu près, au moins. Il y a toujours eu cette question de financement, de comment...
Bien sûr.
Il y a toujours cette question-là. Et donc, les différents deals, que ça soit là le Game Pass, on parlait tout à l'heure du Epic Game Store, qui a aussi à un moment a été une discussion.
Et qui a beaucoup aidé certains jeux à exister, tout simplement.
Voilà aussi.
Absolument.
T'as eu Stadia, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui se sont totalement financés via Google. Il y a un jeu qui s'appelle Wavetail, par exemple, que j'ai beaucoup aimé, qui n'aurait jamais existé sans l'apport de Google, parce qu'ils ceux qui ont financé ce jeu-là pour faire leur catalogue à l'époque. Donc, il y a eu différentes plateformes, mais en tout cas, actuellement, celui qui a l'air de perdurer, en tout cas, reste le Game Pass.
Ouais.
Mmh. Pour être plus récent, on a Remedy qui a dit qui a donné ses chiffres très récemment, mmh. qui a parlé de FBC Firebreak, donc son jeu multi, qui disait en fait les seuls revenus qu'ils ont eu avec ce jeu, bah c'est, ça vient du Game Pass et du PS Plus, donc de des abonnements.
Des offres d'abo. Ouais.
Des offres d'abonnement. Parce qu'ils en ont vendu, vendu 3,5 et il a des évaluations dégueulasses.
C'est un jeu multi, hein, c'est ça ?
Oui.
Okay. C'est, d'ailleurs, il ne faut pas oublier... avec les jeux multi, il ne faut pas oublier aussi au niveau de l'économie des jeux multi sur console, sachant qu'il faut avoir souvent une offre d'abonnement pour pouvoir jouer en multi.
Ah, oui, oui.
Ce qui est... Enfin...
Oui, parce que déjà, en fait, te mettre le doigt dans l'engrenage.
C'est un peu particulier, c'est pour ça que.
Pour t'arracher le bras avec.
Je le précise parce que on est plus PC où effectivement on se dit, bon, bah voilà, tu payes ton abonnement internet et t'y joues. Il faut pas oublier que si tu veux jouer en multi, sauf certains jeux, parce que même sur Nintendo, hein, c'est pareil. Mmh. À part certains free-to-play type Fortnite, tout ça, où t'as pas besoin d'abo, mais la plupart, que ce soit, t'as besoin du PS Plus, t'as besoin du Game Pass, t'as besoin du Nintendo, je sais plus quoi.
eShop,
je sais plus.
Non, t'as un Nintendo quelque chose, oui.
Ouais,
chose.
L'abonnement Nintendo, pour jouer en fait, pour jouer en multi, t'as besoin de ces abonnements-là, sinon ça ne marche
pas. Le Switch Online.
Le Switch Online, c'est ça.
Pas la même chose. Mais ça, on l'a pas, nous. Mais en même temps, je joue pas aux jeux multi, c'est pour ça.
Mais voilà, en fait, et donc c'est vrai que. C'est pour ça que quand tu parles du jeu Remedy, je me dis oui, mais attention, il y a vrai qu'il y a aussi ça à prendre en compte.
En plus, mais effectivement, malgré tout, quand ils ont déclaré, ils parlaient du Game Pass aussi.
Voilà.
Et tout simplement, en fait, le fait d'avoir des deals avec des abonnements, finalement, a été la seule source de revenus de leur jeu pour l'instant.
Ouais. C'est ça.
Et puis, ouais, j'ai essayé de. Enfin, je me suis interrogée sur justement quels seraient les avantages pour les studios d'avoir leur jeu dans le Game Pass et peut-être un peu les quelques limites. Et est-ce qu'au final, ils s'y retrouvent ou pas? Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y a cet aspect de sécurité financière avec cette somme versée qui peut, pour certaines productions, du coup, réduire un peu un risque d'échec commercial. Il y a le côté visibilité, on en a parlé aussi, par exemple, pour un jeu indé qui sortirait comme ça sur Steam, s'il n'a pas la chance d'être dans un événement dont on pouvait parler la semaine dernière, par exemple, il peut facilement passer inaperçu. Tandis que voilà, si tu sors ton jeu dans le Game Pass, tu peux être exposé à des millions de potentiels joueurs et joueuses.
Parmi une centaine de jeux, en fait, surtout. Parce que actuellement, sur le Xbox Game Pass, en général, c'est à peu près une centaine de jeux.
Ouais.
Alors que tu vas sur Steam, c'est des dizaines de milliers.
C'est ça.
Donc, c'est pas la même d'un point de vue mis en avant.
Bien sûr, la visibilité, oui.
Je me demandais aussi, par rapport aux ventes, apparemment, il y aurait aussi un boost des ventes hors Game Pass. Genre, paradoxalement, il y a beaucoup de personnes qui découvrent un jeu via le Game Pass et qui ensuite l'achètent en physique ou l'achètent sur une autre plateforme.
Ça a été déclaré, effectivement, par certains. Ça a été, t'as d'autres, effectivement, qui remettent...
Ouais.
Pour leur expérience.
En tout cas,
bien sûr, mais c'est aussi pour ça qu'il y avait des analystes en fait qui disaient qu'il n'y a pas réellement une règle par rapport à ça, mais que effectivement des exemples de jeux qui sont bien vendus malgré leur présence dans le Game Pass.
Voilà, il y a des jeux qui sont arrivés Day One sur le Game Pass et tout le monde disait non mais c'est bon, si tu mets Day One sur le Game Pass, personne va en acheter.
Alors qu'en fait, si.
Ouais.
Voilà, enfin d'où le. C'est pour ça que je parlais de Clair Obscur la dernière fois. Il est arrivé Day One sur le Game Pass. Ils ont vendu des millions à l'acte, donc il n'y a pas de raison.
Et puis au niveau des limites et critiques qu'on peut...
Alors que Starfield...
les limites et critiques qu'on peut peut-être observer, il y a par exemple justement le fait que les revenus ne sont pas variables, même si, comme je le disais, cette fameuse rémunération à l'usage, elle est vraiment rare. Mais si le jeu explose en popularité, l'éditeur ou le studio n'aura pas forcément de bonus, en fait. C'est juste, c'est un coût qui est fixe, qui a été dealé au départ et qui ne bougera pas.
Il y a un ancien de Sony qui a parlé de ça.
Tout à fait.
Qui a parlé de ça. Et bon, après, il a son interprétation de la chose, mais c'est intéressant. En fait, le fait que tu vends à l'acte, si ton jeu cartonne, plus il cartonne et plus tu vas gagner d'argent de façon mécanique. Alors que là, c'est un deal différent.
Ouais.
Mais c'est exactement le même deal que, par exemple, avec Netflix. Ou par exemple, tu fais Sony qui, par exemple, fait... Tiens, parlons d'un énorme succès récent qui s'appelle K-pop Demon Hunter, qui était censé, à la base, Sony, l'animation, c'est un film d'animation, Sony l'avait prévu pour le cinéma. Et donc, en se disant, ben, au cinéma, ben, en gros, tu le mets au cinéma et plus il y a de gens qui vont le voir et plus tu gagnes d'argent, hein, c'est classique. Mais ils ont eu peur de se vautrer, donc ils ont dit non, on va plutôt faire un deal avec Netflix, un deal qu'on ne connaît pas, évidemment. Mais si c'est un deal du type on vous donne temps et vous le diffusez, en gros, enfin Netflix dit on vous donne temps et vous le diffusez, et ben au-dessus d'un certain nombre de gens qui regardent, ça devient extrêmement intéressant pour Netflix et Sony qui se mord les doigts en se disant bon. Voilà.
La même logique de les droits de The Witcher qui ont été vendus par l'auteur à CD Projekt pour une somme.
C'est ça.
Pas pour des pourcentages, pas pour quoi que ce soit, pour une somme.
C'est ça. Mais le truc, voilà.
C'est un deal dès le départ et tu fais un choix, quoi. Enfin, tu prends un risque, tu prends pas un risque.
C'est ça.
Ça prend pas.
Voilà. On va dire qu'au moins là pour The Witcher, on sait que. Dommage.
Oui, parce qu'il a... après, ils en ont parlé, ils se sont mis d'accord, ils se sont arrangés.
Oui, voilà.
Et CD Projekt n'a pas été en mode bah non. Casse-toi, t'as signé, c'est voilà, bon, dégage maintenant.
Mais voilà, et puis bon, après, voilà, bon, c'est un peu différent aussi pour Sony, c'est-à-dire qu'ils ont quand même la licence de K-pop Demon Hunter, le truc est cartonné. Quand ils vont faire un 2, un 3, les licences, les jeux, machin, je pense que ça va bien.
C'est pas terminé.
Ils vont bien encaisser, mais bon, c'était juste pour expliquer c'est juste pour expliquer un exemple.
Toujours sur les limites, bah, on parlait de la visibilité tout à l'heure, mais le revers de la médaille, c'est que la durée de présence est limitée. Et donc, quand un jeu sort du catalogue, forcément, la visibilité, elle chute aussi. Et puis, une autre limite à laquelle on n'a pas de réponse, mais en tout cas, vous allez avoir envie de rebondir dessus. Mais avant, je conclurai aussi sur est-ce que les studios s'y retrouvent. C'est est-ce que... Enfin, certains studios craignent que l'écosystème devienne trop dépendant de l'argent de Microsoft. Ça, évidemment, ça peut être un problème et ça questionne beaucoup.
La question du monopole.
Ouais. Mais du coup, voilà, est-ce que les studios s'y retrouvent? Alors, ce qui ressort, c'est que les indés, généralement, oui. Justement pour cette histoire de sécurité financière s'ils ont donc un financement de départ et de la visibilité qui les aide énormément. Les AA, les gros éditeurs, bah, ça dépend. Pour certains, le forfait va largement couvrir les coûts, voire ça peut être plus rentable que les ventes directes, mais pour d'autres, bah, en fait, ils préfèrent carrément vendre direct. Enfin, ça dépend des cas, ça dépend de plein de choses. Et les AAA, en général, ils s'y retrouvent beaucoup moins. Les très gros studios hésitent vraiment à mettre leur grosse production day one, sauf si Microsoft paye une énorme somme, parfois en plusieurs dizaines de millions de dollars. Mais voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, donc c'est vraiment pas du tout la même histoire.
Les fameux deals à 50 millions. Mais effectivement, hein, se poser la question de est-ce que Ubisoft, est-ce que Take-Two, est-ce que des grosses boîtes comme ça ont un intérêt à se dire on l'en met en day one sur le Game Pass, sachant que eux vont beaucoup beaucoup se baser sur la vente à l'acte pour récupérer leurs sous.
Ubisoft, on peut parler de leur propre store,
on peut parler de leur propre offre, oui effectivement,
et des deals qu'ils ont eu entre 2019 et visiblement cette année avec l'Epic Game Store pour sortir leur jeu day one sur l'Epic Game Store
sur PC uniquement.
C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout dispo ailleurs que sur l'Epic Game Store et sur leur propre store. Ça peut être une question, mais pour rebondir effectivement sur ceux qui remettaient peut-être en cause effectivement la dangerosité, en fait, enfin, de ça on peut parler effectivement juste après les licenciements de 9100 employés de chez Microsoft, dont une partie dans le groupe Xbox globalement,
dans la partie de vidéo,
la division, la division gaming. Un certain Raphaël Colantonio, donc fondateur d'Arkane Lyon, et depuis parti fonder son propre studio Wolfi, il a fait un tweet justement en réaction finalement à ces licenciements. Il a fait un tweet relativement court qui disait pourquoi personne ne parle de l'éléphant dans la pièce, le Game Pass. Il a ensuite développé sur différents on va dire plateformes. Je pense que le Game Pass est un modèle non viable qui nuit de plus en plus à l'industrie depuis une décennie, subventionné par l'argent infini de Microsoft. À un moment donné, la réalité devra s'imposer. Je ne pense pas que le Game Pass puisse coexister avec d'autres modèles. Soit il éliminera toute la concurrence, soit ils l'abandonneront. Ça a amené un autre acteur assez vocal de l'industrie, Michael Doze, donc de la tête de l'édition chez Larian, donc Baldur's Gate 3 principalement, qui a commenté plus du côté vraiment argent infini. Que se passera-t-il quand cet argent s'épuisera? C'est la préoccupation la plus fréquemment exprimée dans le réseau de Michael Doze, et l'une des principales raisons économiques pour laquelle certaines personnes qu'il connaît n'ont jamais adopté le modèle économique des abonnements et du Game Pass. l'idée de l'argent infini n'a jamais eu de sens et du coup ils veulent s'en prémunir en ne rentrant jamais dedans. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Larian n'a jamais a déclaré en 2023 que Baldur's Gate 3 ne rentrerait jamais dans le Game Pass.
C'est ça. Il l'avait exprimé alors que à un moment quand il y avait été question pour Original Sin 2, je crois. Il avait été question.
Quelques années avant, du coup. Ouais.
Quelques années avant. Hein. Ouais. Mais c'était...
2017-2018.
Ouais. Voilà. Et bien, justement, c'était...
Le début du Game Pass.
Le début du Game Pass. Et il était question aussi... comme il y avait déjà des pourparlers par rapport à Larian sur...
à l'époque, on savait déjà qu'ils
seraient sur Baldur's Gate 3. Et qu'il y avait déjà eu des pourparlers pour dire est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de mettre Original Sin 2 sur le Game Pass PC pour
et du coup, Colin Tony avait un peu l'expérience du Game Pass puisque son premier jeu, Weird West, a été sorti directement sur le Game Pass Day One sur décision de Devolver, l'éditeur du jeu. Donc il avait déjà un peu cette expérience-là à ce moment-là. Il a continué à parler du sujet avec le lead designer de son studio, Gaël Giraudeau, donc qu'on connaît sur sa chaîne YouTube Gags, G-A-G-Z-Z-Z, qui est soi-disant en passant un petit festival de vignettes un poil putaclic quand même, qui se demande, par exemple, celle qui se demande bien fort si Dragon Age de Veilguard n'était pas un jeu trop woke. Ouais. Bref. Donc ils avaient continué la discussion, effectivement. Ils disaient la raison pour laquelle le Game Pass existe, c'est parce que ça repose sur la stratégie d'investir énormément d'argent de Microsoft pour faire que le Game Pass existe, que l'offre existe. Et aujourd'hui, voilà, ils remettent un petit peu ça en cause. C'est bien ce qu'ils constatent, qu'on a vu effectivement certains studios dont ils avaient vanté les qualités des jeux qui étaient en cours de développement ont été arrêtés pour autant. Il y a eu quelques exemples, là, justement, là, en juillet, de jeux qui étaient dans cette situation. Et bref, il a été relativement virulent là-dessus, quoi. Et parce que leur objectif, c'était effectivement d'atteindre 50, 60 millions d'abonnés pour le Game Pass, pour atteindre un niveau, en tout cas, d'objectif, de rentabilité, etc.
Oui, mais c'était...
La rentabilité du Game Pass, ça a été discuté aussi, mais...
C'est vraiment, en fait, on suit le discours qu'a eu Netflix quand ça a commencé à péter, qui disait, voilà, pour...
On veut atteindre un chiffre, et justement,
à partir de ce chiffre seuil, c'est là, on peut dire, de toute façon, on peut augmenter. Enfin, on peut augmenter le prix de l'offre.
On a du contrôle sur ce qu'on fait
parce que de toute façon, on a un nombre qui fait que de toute façon, peu importe ce qu'on fera, on sait qu'on rentrera dans nos frais, quoi.
Voilà. Et du coup, ça avait poussé, j'ai envie de dire, le Matt Piscatella, donc de chez Circana, donc un analyste globalement de l'industrie, qui lui a une autre lecture parce qu'il avait déclaré en marge des déclarations de Colantonio. Il y en a effectivement certains qui considèrent que ce genre de service d'abonnement, ça marche. D'autres pour qui ça n'a pas marché. Il n'y a pas de règles. C'est pas toujours certains qui bénéficient. C'est pas toujours tout le monde qui souffre de ça. Et en fait, il avait répondu ça en faisant le constat qu'en juillet, les dépenses en abonnement des jeux vidéo, Game Pass, PlayStation Network de Sony, EA Play, Ubisoft, UbiPlus, Switch Online, tout ce que tu veux, quoi. Bien que le Game Pass soit évidemment le plus important, avait atteint les 600 millions de dollars mensuels aux USA. Un record battu pour le troisième mois consécutif. C'est-à-dire que ça n'arrête pas en fait d'augmenter les revenus de ces différents types d'abonnements aux États-Unis. Donc 600 millions de dollars mensuels, c'est juste massif, quoi. Et il expliquait notamment ça par la baisse du pouvoir d'achat aux États-Unis, la redistribution, j'ai envie de dire, des dépenses, le choix de dépenser de l'argent dans tel ou tel domaine, et évidemment la recherche du meilleur deal. Comme vous l'aviez dit au début, c'est effectivement un deal extrêmement intéressant pour avoir accès à du jeu vidéo en quantité et en qualité.
Surtout et dans un... Pardon, je t'en prie.
Non, c'est tout.
Surtout dans un moment où les éditeurs de jeux vidéo poussent pour du 90 balles le jeu, pour 100 balles le jeu.
Pour une adaptation du prix du jeu à l'inflation.
Voilà, ils poussent là-dessus. Et donc forcément, l'offre d'abonnement...
Que depuis 2005-2006.
Et donc l'offre d'abonnement devient extrêmement intéressante pour ceux... prémunir par rapport à cette promesse d'augmentation de prix. Quoi.
Et il avait effectivement ajouté que pour lui, les systèmes d'abonnement étaient un élément dans l'écosystème global, mais que pour lui, le danger et la cannibalisation des dépenses et du temps de jeu venaient beaucoup plus de ce qu'on avait déjà dit sur les analyses Newzoo, notamment l'année dernière.
Les free-to-play.
Des jeux-services, en général. Ouais. De Fortnite, de Roblox, de tout cela, qui mangent plus de la moitié du temps de jeu sur console, sans même parler du PC, des mobiles, de ce que tu veux. Et que pour lui, du coup, on est beaucoup plus sur un... Enfin, le danger, si tu veux, c'est pas les systèmes d'abonnement par rapport pour le fonctionnement de l'industrie, c'est ces trucs-là, en fait, qui cannibalisent beaucoup plus et qui prennent... Enfin, voilà, qui laissent peu de place et de moins en moins de place aux nouveaux qui veulent rentrer sur ces marchés-là, sur les marchés des jeux-services. il faut y arriver, il faut venir avec quelque chose d'extrêmement sérieux pour avoir une chance. Oui. Marvel Rivals, c'est un des rares ces dernières années à avoir réussi à mettre des doigts de pied dedans.
Et encore, c'est pas. D'après son éditeur, ça rapporte, mais pas assez.
Okay. Mais tu prends X-Defiant, tu prends Rumbleverse, tu prends Concorde, tu prends tout cela en fait qui ont voulu rentrer dans cette logique-là.
Babylon's Fall.
Dans ce projet. Mais on est effectivement sur cette guerre-là, en fait. Et pour Matt Piscatella, elle est là, la guerre. Et les systèmes d'abonnement ne sont pas le même type de danger. Ils ont des avantages, ils ont certains défauts, mais ils ne sont pas, comme l'ont déclaré effectivement certains, et notamment Colantonio, le problème en fait, de l'industrie.
Pour revenir sur ce que disait Colantonio, pareil...
Je peux comprendre les points de vue de chacun, mais je pourrais être le plus large possible sur les analyses.
C'est intéressant.
Non, mais c'est super intéressant. Et pour revenir sur ce que disait Colantonio, je ne sais pas s'il ne me semble pas qu'il y ait de corrélation entre la popularité, en tout cas par exemple, sur le marché PC, la popularité du Game Pass PC et une éventuelle baisse des ventes sur Steam. Parce que, vu les chiffres qu'affiche Steam depuis des années, t'as pas l'impression qu'il y a un effet. On dit, oulala, il y a le Game Pass, du coup, ça va moins bien. Parce que, en termes de nombre de ventes à l'acte, Valve va bien, va très très bien.
Et du coup, vite fait, pour terminer, on a effectivement eu la sortie de Sean Layden, un ancien président de Sony, qui est un détracteur du Game Pass depuis 2019.
On se demande bien pourquoi.
Layden, aujourd'hui, régulièrement, il donne son avis sur le Game Pass. Il en a profité récemment pour le
redire. Il fait quoi d'ailleurs maintenant ? Parce qu'il est ancien, mais il fait quoi en fait ?
Et du coup, il voulait voir un petit peu, parce que la question de la rentabilité du service a pu être posée, mais c'est pas ça qui l'intéresse en fait. Il fait le rapprochement avec la musique, en disant que regardez, aujourd'hui les systèmes d'abonnement comme Spotify ont fait que la musique, tout le monde considère que ça coûte plus rien. Il revient régulièrement dans ses débats l'exemple, mais ce qui intéresse Layden, c'est de montrer que ce type d'abonnement serait un danger pour les studios qui produisent surtout les AAA, comme tu as pu effectivement le constater. En tout cas, on a eu des retours sur le sujet, et il disait en fait que ça transforme les développeurs en simples salariés, des gens qui vont chercher le salaire, c'est-à-dire qu'ils vont produire des jeux, ils vont produire du contenu pour de l'argent régulier. Ce à quoi, effectivement, je trouvais un très bon article de Kotaku qui est relativement long, mais qui est assez intéressant, sur le sujet, qui disait, mais en gros, gars, dans quel monde tu vis ? Tout le monde travaille comme ça, en fait. Lui, il partait du principe que tu crées ton truc dans un univers à part, si tu veux, le monde des bisounours, que tu sors ton jeu, et puis que du coup, tout le monde l'achète, et que tout le monde, finalement, les gens qui ont travaillé sur le jeu, qui se sont nourris, je sais pas comment, pendant ce temps-là, en récupèrent les bénéfices, et effectivement, sont payés beaucoup d'argent si le jeu gagne beaucoup d'argent. Sauf que ce monde-là, il existe quasiment pas, à part effectivement pour des développeurs solo indés, ou des studios qui ont un fonctionnement de type scope, entre guillemets, au niveau de la structure, de qui gagne combien, etc. Mais globalement, c'est une véritable exception dans l'univers tout court, dans le monde.
Ou les studios qui fonctionnent par levée de fonds, uniquement.
Aussi, mais tu as, de toute façon, le travailleur, celui qui va vraiment travailler, celui qui est salarié dans un studio, il va de toute façon travailler pour un salaire, pas pour les bénéfices futurs de la quantité de la vente. Et du coup, il avait l'air. Enfin, cet article en fait revient sur un petit peu là-dessus, disant que c'est juste comme ça que ça fonctionne tout court. Même si effectivement, dans un monde idéal, tu mets le salaire universel à tout le monde et puis la question se pose pas. Tu crées parce que t'as envie de créer.
Ouais.
Mais malgré tout, est-ce que c'est déjà pas être un peu plus dans la réalité que de se dire ok, c'est déjà comme ça que ça fonctionne. Arrête d'essayer d'inventer un monde qui n'existe pas.
Bizarrement, je vois pas Sean Layden comme un partisan du revenu universel.
Comme le disait l'article, c'est souvent effectivement des techs qui viennent de gens qui ont été toujours des cadres dirigeants d'immenses boîtes qui étaient payés des dizaines de milliers de dollars par an, qui ne comprenaient pas finalement le quotidien des gens. Et on peut se rappeler des sorties hallucinantes de Mike Ibarra, notamment un ancien également de chez Sony.
Pour info, depuis qu'il a été, on lui a gentiment dit de partir de Sony, de Sony Jeux Vidéo, il a été consultant stratégique pour une boîte qui s'appelle Tencent.
Ah.
Voilà. Tencent, parfait, qu'il a remercié en mai de l'année dernière.
Parfait.
Là aussi.
oui, c'est pour ça qu'il parle maintenant.
Okay.
Avant, il ne parlait pas parce que gloire au parti. Parce que gloire au parti.
Oui, voilà. Mais... il ne parlait pas aux mêmes personnes.
Voilà, c'est ça.
Mais toujours est-il que c'est effectivement un sujet qui est toujours ouvert, je pense, même si le Game Pass a évolué. Xbox aussi a fait évoluer sa proposition. Avant, ils voulaient le Game Pass d'un côté, la console qui va avec de l'autre. Aujourd'hui, la console, c'est oublié. Les jeux, il n'y a plus d'exclus Xbox. Tu sors tes jeux directement sur même la PlayStation. Tu veux en vendre le plus possible. Je ne sais pas dans combien de temps on ne va pas voir arriver le Game Pass sur PlayStation.
En fait, la question que je me pose...
Je ne serais même pas étonné.
La question que je me pose, c'est un peu la question que je me posais à l'époque pour les offres Epic, qui était de la corrélation entre les montants proposés par Microsoft et le retour sur investissement, ou en tout cas ce qu'ils estiment être le retour sur investissement, sachant que Microsoft a montré par le passé qu'un jour, si un jour ils disent « ça ne marche pas, on coupe tout »,
en tout cas, ça marche pas assez.
Ça marche pas. Voilà. Genre, bon, quand je dis ça marche pas, j'ai une piscine de billets alors que je voudrais un océan de billets. Et ben du coup, ça arrête pas.
Un truc qu'on n'a pas évoqué, c'est le nombre actuellement d'abonnés au Game Pass.
Tu dis,
je crois qu'on est 35 millions dans ces eaux-là.
Voilà, 35 millions.
Un peu plus, non, c'est pas ça, c'est ça. Du coup, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est assez par rapport au la logique qui a fait que Microsoft a licencié 9000 personnes, a coupé certains studios, a coupé certaines activités pour finalement financer leur quête de l'IA, les 80 milliards qu'ils voulaient investir cette année dans l'IA.
C'est toute offre confondue, c'est-à-dire Xbox, enfin console et PC.
Le nombre d'abonnés au Game Pass ?
Oui.
Je crois, Je crois que c'est vraiment le nombre d'abonnés au Game Pass, quoi qu'il arrive, quel que soit l'abonnement.
Ok.
Donc c'est quelques brousoufs quand même, ça rapporte un poil.
En fait, ça fait, mettons que, bon, partons sur $15 par mois, on est sur un 525 millions par mois, en chiffre
par
d'affaires.
Par mois, ok, ouais, donc on est sur du, sur du 6 milliards par an.
C'est ça. En chiffre d'affaires, tu vois. Donc, et à partir de
avec ça, tu finances les achats de jeux externes, tes productions
internes. En fait, c'est pour ça, c'est la question que je me pose, en fait, du... Comme on ne connaît pas exactement les chiffres, est-ce que ça... tant que... En gros, ça... Colantonio parle de l'argent illimité. Mm-hmm. Moi, je dis plutôt, pour l'instant, est-ce que la politique tarifaire... et pour l'utilisateur et pour les deals qui sont proposés aux différents éditeurs, est-ce qu'ils rentrent dans leurs frais, tout simplement ?
C'était la question de est-ce que le Game Pass est profitable, rapporte de l'argent, qui avait été posé par Christopher Dring, Game Industry, relativement récemment, qui disait que normalement, avec les revenus, avec les coûts internes des studios, normalement ça passe, normalement ils gagnent de l'argent. C'était sans prendre en compte, effectivement, les coûts de production, vraiment du développement des jeux en interne. Donc, il manque des données pour être...
C'est pour ça que je trouve que c'est un peu différent du côté argent illimité dont on parlait avec Epic.
Mais ils avaient l'objectif, en fait, de proposer le maximum de contenu pour attirer le maximum d'utilisateurs de plus en plus. C'est ce qui a fait que, je crois qu'ils ont obtenu pas loin de 12% d'augmentation du nombre d'abonnés à l'arrivée de Call of Duty dans le Game Pass.
C'est ça.
Et c'était leur objectif, en rachetant Activision Blizzard King.
D'ailleurs, Call of Duty, qui a été la première grosse présentation de l'Open Night Live.
De la Gamescom.
De la Gamescom, dont on parlera peut-être la semaine prochaine, peut-être dans deux semaines, on verra. Mais en tout cas, merci Bettina, merci Romain.
Merci à toi.
Merci pour cette
magnifique synchronisation.
Merci pour avoir travaillé sur cette émission pendant que je vous écoutais et que je racontais n'importe quoi comme d'habitude.
On se dit à la semaine prochaine ?
Oui, comme d'habitude, on remercie le collectif Presse F5, on remercie Radio Canu et on se dit à la semaine prochaine. Ciao !
Bonne soirée.
Bonne soirée.